Bonjour Anne Stenner, maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Ouest Nanterre, est l'auteur du Temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque, parue aux éditions L'Échappée. Interview réalisée en compagnie de Christophe Patillon, Yann Perry et Xavier Nerrière, avec la complicité du Centre d'Histoire du Travail.
J'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'anarchisme en général et plus particulièrement les individualistes. Et en toile de fond, j'étais confrontée comme ça à pas mal d'explosions violentes qui m'ont intéressée parce que dans les formes, justement, elles reprenaient des répertoires d'actions qui étaient présentés dans les années 2000 comme tout à fait inédits, alors que c'était pas le cas, notamment dans les émeutes urbaines. Donc, à la suite de ce livre sur les anarchistes individualistes, j'ai fait un livre qui s'appelait « Le goût de l'émeute », sur les émeutes urbaines parisiennes, notamment, à la Belle Époque. Là, j'ai découvert les cartes postales, parce que certaines de ces émeutes étaient liées à des mouvements sociaux, étaient liées au mouvement ouvrier, tout simplement. Et du coup, ça m'a à la fois ouvert un chemin vers le syndicalisme révolutionnaire, ce qu'on a appelé plus tard l'anarcho-syndicalisme, et sur les cartes postales, puisque j'ai un ami collectionneur qui avait mis à ma disposition des cartes pour illustrer ce livre, Le goût de l'émeute. Et j'ai ensuite tenu une petite chronique, du coup, sur tous ces événements pour le journal Article 11. Quand je les écrivais, ces petites chroniques, j'essayais de retrouver des cartes, même sous forme virtuelle. Je me faisais comme ça des petites collections virtuelles de cartes. Et d'abord, Article 11 a eu la mauvaise idée de s'arrêter. Et j'ai pensé en faire un recueil. Pas mal de gens me disaient « tu devrais faire un bouquin avec ça ». Et j'ai eu envie de faire un livre autour de la carte postale. Alors là, je suis partie à la recherche de séries de cartes sur chacun des événements que je voulais traiter. Et j'ai puisé dans une collection privée, celle de cet ami. Moi-même, entre-temps, j'avais pris le virus, j'avais commencé malheureusement à collectionner des cartes. Je dis malheureusement, c'est très coûteux. Et aussi, j'ai eu accès à une collection qui avait été constituée dans les années 1950 et 1960 par un ouvrier du livre, Bossy, Georges Bossy, qui, à sa mort, en a fait don au musée d'histoire vivante de Montreuil. Et là, il y a plusieurs milliers de cartes et j'ai puisé là-dedans aussi. Voilà. À cette époque, il y a une production de cartes postales qui explose parce qu'il y a de nouveaux procédés qui rendent la production de cartes postales beaucoup moins coûteuse et moins encombrante aussi. C'est des presses phototypies, ça s'appelle. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui permettent comme ça d'être équipé sur une surface comme celle-ci. Vous pouvez éditer des cartes postales.
On est à la radio.
Dans un local modeste de quelques dizaines de mètres carrés, vous pouvez avoir une presse à cartes postales. Alors, il y a des grands éditeurs qui éditent des cartes, qui eux ont genre 300 salariés, font des centaines de milliers de cartes par an, voire des millions. Et puis, il y a aussi localement des petits producteurs. Un photographe s'associe à un papetier ou à un imprimeur et il monte comme ça une petite entreprise de cartes postales. Alors, la carte postale, elle rend compte... Il n'y a pas de photo de presse à l'époque. C'est le tout début du XXe siècle. On commence à avoir des photos de presse, mais elles sont de mauvaise qualité, rares. Et donc, la carte postale va remplir cette fonction de mettre en image, de donner à voir la réalité du temps, les faits, les événements. Donc, il y a bien sûr les paysages, il y a les monuments, les inaugurations de monuments, il y a tout, absolument tous les événements, les catastrophes naturelles, les inondations de Paris en 1910 ont donné lieu à des séries de cartes postales, les événements mondains, visites de chefs d'État étrangers, courses de chevaux, etc. Et les mouvements sociaux, ça fait partie de l'actualité. Et donc, il y a la mise en carte postale des grèves, des manifestations, etc.
Qui sont ces photographes? Ce sont des syndicalistes, des personnes?
Absolument pas. C'est commercial. C'est ce que j'ai dit. C'est des entreprises, alors soit des micro-entreprises locales, un photographe, un imprimeur, soit des boîtes un petit peu importantes comme ça, qui ont 300 salariés, qui sont parisiennes, mais aussi vosgiennes, il y en a aussi dans les Vosges. Donc c'est absolument une entreprise commerciale. Et ils envoient des reporters photographes dans les régions où il se passe quelque chose. Et ils ont aussi un réseau de photographes locaux. Ils leur demandent de photographier une nouvelle gare, par exemple, ou un monument quelconque qu'on vient d'édifier. Et quand il se passe quelque chose comme ça, soit ils contactent les photographes qui travaillent pour eux localement, soit ils envoient leur reporter, soit parfois un photographe de lui-même prend l'initiative de faire des photos et l'envoie à l'éditeur de cartes postales. Voilà. Mais c'est une entreprise commerciale.
Oui, j'entendais bien, mais moi je faisais la distinction entre l'imprimeur et puis celui qui était à l'origine de la photo. Et donc on a compris que c'était la même boîte.
Voilà, c'est la même boîte, voilà. Et c'est commercialisé chez les libraires papetiers, les magasins de souvenirs aussi. Quand c'est près d'une station balnéaire, par exemple, la grève de Fressenville en Picardie, qui a été remarquable par son degré de violence contre les demeures patronales qui ont été incendiées des combles jusqu'au grenier, a donné lieu à des séries de cartes postales qui ont été vendues au Tréport dans les magasins de souvenirs, par exemple. Voilà, ça c'est assez cocasse. Mais...
Vous êtes d'accord avec moi, sur une carte postale, il y a deux faces. Mm-hmm. Vous vous intéressez qu'à la photo ou au texte ?
Je me suis aussi intéressée au texte. Alors justement, on est à un moment charnière où les gens, normalement, devraient écrire au dos, puisqu'on a mis un emplacement pour l'adresse, le timbre et la correspondance. Mais indisciplinés qu'ils sont, ils écrivent souvent sur la carte et ils apposent le timbre aussi sur la photo. Donc d'ailleurs, plusieurs des cartes que j'ai reproduites dans le livre sont de ce type-là. Alors, le texte est très court, souvent. C'est bien pour ça que, je pense, la carte postale a eu un tel succès. C'était pas trop coûteux. Et ça permettait à une population qui était alphabétisée, qui savait lire et écrire, car plus, les lois Ferry sont quand même récentes, c'est 86, de mettre un petit mot, bon baiser, bien arrivé, voilà, sans être inhibé par une grande feuille blanche. Qui suppose qu'on rédige quelque chose. Et c'est pour ça que dans les milieux populaires, c'était très, très usité. Alors, ça aurait été intéressant, évidemment, de faire une analyse des contenus, mais j'estime que je ne disposais pas d'assez de cartes pour le faire, étant donné que pas mal de cartes que j'utilisais étaient vierges. Donc, au total, j'ai eu une centaine de cartes écrites. C'est pas assez pour faire une analyse de contenu. Mais... ce que j'ai pu observer, c'est que dans l'ensemble, le texte n'a absolument aucun rapport avec la scène. C'est-à-dire on peut avoir la photo d'une manifestation ou d'une voiture, par exemple, calcinée, une voiture de patron qu'on a brûlée, et derrière, il y a écrit « Je te souhaite un bon anniversaire ». Voilà, c'est ça. Alors, quelquefois, il y a des petits traits d'humour. Par exemple, il y a une carte qui montre la photo d'une maison de patron dévastée par un incendie criminel. Et il y a écrit « La belle vue », point d'exclamation, signé Baptistin. Bon, là, évidemment, je suis tombée un jour, ça c'était les cartes de la grève de Draveil, sur un texte d'un dragon, c'est parti des forces de répression, d'un soldat, qui écrivait à sa famille et qui envoie une photo de la grève de Draveil en disant « Les gens sont horribles, c'est des vrais sauvages, heureusement qu'on est là, ces terrassiers sont des monstres, voilà. » Mais j'ai pas vu de texte militant.
Mais c'est curieux d'utiliser ce genre de support avec ce type de photo pour des choses aussi anodines.
Je me suis interrogée là-dessus et puis je me suis dit que en fait, souvent ces événements se passent dans des petites villes, voire même des villages où l'industrie est disséminée avec des ateliers à domicile partiellement et puis il y a une petite manufacture puis plein d'ateliers à domicile et donc le fond de carte ne se renouvelle pas beaucoup. Or les gens qui écrivent, les gens du peuple ont quelques correspondants, ils ont un oncle à Paris, par exemple, ils vont lui écrire 5 fois par an. Et une fois qu'ils ont envoyé une photo de l'église, ils vont pas renvoyer la même. Alors, il y a la photo de la dernière grève, ils envoient ça. Ça renouvelle le fond. Moi, c'est mon explication.
sont des photos posées ou en pleine action ?
La plupart sont des photos posées. On fait poser les habitants devant les vestiges. Soit là, par exemple, ils posent devant la maison d'un patron. La porte a été graffitée. Et c'est des très belles photos, celles de Limoges, parce que c'est fait par un photographe de Limoges qui connaît les habitants. Et c'est celle où on voit le plus les gens. Il montre les gens. Et c'est ça qui est précieux. Parce qu'on... Les textes dont on dispose ne nous donnent pas cet accès aux personnes qui font ces mouvements. Eh bien là, on voit, ils les font poser devant la porte où il y a écrit « Mort à Beaulieu », Beaulieu étant le patron, souvent posé devant les vestiges, donc les barricades semi-détruites, la porte de la prison défoncée, etc. Mais il y a aussi des prises sur le vif, c'est plus rare, mais il y en a... Notamment à Raon-l'Étape, on voit même une charge de dragons et le photographe doit être dans une des maisons de la place. Il a vraiment mitraillé avec son appareil photo cette place et on voit la charge. Toutes les 20 minutes à peu près, il y a une photo. Donc on voit avant la charge des dragons, pendant la charge, après la charge. Et c'est pris sur le vif. Mais c'est plus rare.
Et ce qui est précieux pour vous, c'est
qu'elle donne à voir les acteurs de ces mouvements. On voit comment ils sont vêtus, comment ils se tiennent. On voit les enfants, parce que quand une grève éclate dans une localité, c'est toute la population hein, qui est remuée. La troupe, par exemple, peut très bien loger dans l'école. On vide l'école, on ferme l'école, on met des bottes de foin. Et, par exemple, quand les boutonniers de l'Oise ont fait grève, il y a eu 6000 hommes de troupe. Pour quelques villages, 6000 hommes de troupes, hein, c'est des armées d'occupation, donc on vide les écoles. Les dragons dorment là, sur la paille, et les enfants ont quartier libre. Donc ils suivent les photographes à la trace. Ils se mettent toujours devant. Il y a certains enfants qui arrivent à être sur chaque cliché. On repère à Limoges toujours le même petit bonhomme qui se carre bien devant l'appareil photo. Ça nous donne à voir toute cette population qui, de toute façon, est touchée par la grève. La preuve, on fait des exodes d'enfants quand la grève s'étire en longueur. On fait partir les enfants vers une autre ville où ils sont accueillis par d'autres familles ouvrières, par des familles ouvrières. Hein. C'est un acte de solidarité très fort. Voilà, tout est bouleversé. Donc on voit cette population, les femmes, les hommes, les enfants. On voit leurs visages, leurs vêtements. Enfin, c'est extrêmement touchant.
Christophe,
quand on est un historien qui s'intéresse à la question sociale, évidemment, si on nous propose un livre sur... L'avant 14, on est intéressé parce que c'est l'âge d'or de la CGT, c'est l'imminence de la révolution, c'est la grève générale. Il y a plein de choses comme ça qui font écho. Donc du coup, on se jette dessus et c'est un vrai plaisir, hein, je le dis sans forfanterie, c'est un vrai plaisir de lecture et tout. Alors après, quand on est un vrai spécialiste, il y a des événements que j'ai lus, que je connaissais déjà. C'est bien sûr Victor Charles à Nantes, hein. Bon, le docker qui est tué pendant une manif. Il y a bien sûr Courrières dans le Nord. Et puis il y a des choses que je ne connaissais pas. Alors les Picards, par exemple, dont Anne vient de parler... Je ne savais pas qu'ils avaient mis à sac une maison bourgeoise et jeté toutes les choses de valeur dans la mare qui était à côté. Voilà, ça, je ne connaissais pas. Il y a un autre Raon-l'Étape non plus, je ne connaissais pas cet épisode-là. Et puis alors, parce que je sens que tu veux que je fasse toute une critique et tout, alors quand j'ai lu le titre du livre, quand j'ai lu l'introduction, etc., moi qui suis un homme de l'écrit et pas du tout de l'image, hein, et je dois l'avouer, je me suis dit, ah chouette, ça va être intéressant, etc., ce jeu et tout ça. Et Anne explique très bien l'importance des photos, la présence de ces, comment dire, des femmes et des enfants qu'on ne voit pas forcément dans le récit des luttes, mais qu'on retrouve sur les photographies, donc ça c'est intéressant. Or, j'ai eu le sentiment, et moi j'ai lu le livre, je l'ai avalé je lis vite, hein, mais j'ai lu en une journée ou deux, en une soirée, et j'ai fermé le livre et je me suis dit, j'ai pas regardé les photos, j'ai pas regardé les cartes postales. Et je l'ai dit à mon collègue Xavier, qui est spécialiste de la photo, et je lui dis, écoute, tu verras, ce sera peut-être ton sentiment. Moi, j'ai avalé le livre comme ça, mais sans regarder les photos, quoi. Et c'est la question que j'aimerais poser à Anne, c'est qu'à la fois, elle nous renseigne beaucoup sur l'importance de la photo dans l'introduction, et à partir du moment que ça s'est dit, que c'est placé, et que donc ça doit aussi nous stimuler l'intellect aussi, quand Anne rentre dans le récit des événements, il n'y a pas de lien. Elle ne renvoie pas vers la photo, etc. Et moi, je m'attendais en fait à ce que, dans le récit d'événements, on dise « Regardez bien aussi sur cette photo, il y a cet élément-là qui explique, etc. » Et j'ai trouvé ça curieux. C'est-à-dire que je ne suis pas déçu à la lecture, parce que j'ai pris un vrai plaisir de lecture. Mais je me suis dit « Pourquoi diable, la photo qui a servi comme dans le titre et dans l'introduction, quelque part, elle disparaît au profit du seul texte et la seule analyse de l'événement. »
Heinz Stener, auteur du « Temps des révoltes », une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque, parue aux éditions L'Échappée, est avec la complicité du Centre d'Histoire du Travail, l'invité du magazine.
C'est le témoignage de ce qu'on pourrait appeler une lecture en aveugle.
C'est vrai que, ouais, il n'a pas tort. Et même rétrospectivement, je me dis qu'elles sont parfois mal positionnées par rapport au texte, parce que je n'ai pas fait vraiment sur la maquette. Donc, à un moment, j'évoque un enterrement. Et malheureusement, la photo, elle est deux pages plus loin, par exemple. Et effectivement, je le concède, mais je ne savais pas comment faire pour qu'en même temps, le récit de l'événement soit lisible, cool, bien. Alors, j'aurais peut-être dû, sous chaque photo, détailler davantage. Mais ça aurait fait très didactique. C'était difficile, ouais. Je voulais aussi que ça se lise comme des petits récits un peu épiques, voilà.
Mais la question que pose Christophe, c'est au fond, est-ce que la carte postale n'est qu'une illustration ?
Non, c'est pas une illustration. Pour moi, ce n'est pas simplement une illustration du texte, parce qu'elle parle en elle-même et elle montre des phénomènes que tous les textes écrits sur lesquels on travaille ne nous permettent pas d'appréhender. Mais c'est pas assez mis en valeur dans les récits. Oui, c'est vrai. Sauf peut-être dans le focus, mais même, ouais, c'est plus dans le focus. Puisque le livre est conçu ainsi, il y a 9 événements, et à la fin de chaque événement, je fais un encadré, un focus sur un thème qui est particulièrement important dans le chapitre, mais qu'on retrouve dans un thème transversal à l'ensemble des chapitres. Et je n'ai pas fait, par contre, de conclusion globale. Mais voilà, moi, j'accepte cette critique. Elle est juste et pertinente.
Juste pour bien poser la présentation du livre, donc sur ces chapitres, c'est une époque donnée, et dans des lieux que vous avez choisis, des lieux emblématiques.
Mon choix, il a été guidé par premier critère. Alors, c'est une époque pendant laquelle il y a 1500 grèves par an environ, entre 1000 et 1500 grèves par an, sous l'égide de la CGT, qui est alors syndicaliste révolutionnaire, à la tête de laquelle il y a beaucoup d'anarchistes, et qui croient à la perspective de la grève générale, hein, qui pense que on aura la peau du capitalisme, pas par l'insurrection, mais par la grève générale, c'est-à-dire qu'on va s'emparer partout en même temps, enfin ça se déroulera sur plusieurs mois, des instruments de production là où on est, où on fera tourner la boîte sans les patrons, et le syndicat deviendra de groupement de résistance, deviendra groupement de production et de distribution des biens. On bloquera les flux. D'où l'importance des dockers, des cheminots, etc. Bon, c'est une perspective. Et en même temps, chaque grève locale est aussi l'occasion de faire valoir des revendications. Et puis, c'est une gymnastique révolutionnaire, comme disait Sorel. Voilà. Et c'est ce contexte de grande combativité, à une époque où, en plus, la CGT se garde d'être sous la coupe des partis. Parce que le syndicalisme vient de s'unifier en France. Mais le socialisme aussi, qui était divisé en petites chapelles, qui toutes, d'ailleurs, essayaient plus ou moins de mettre la main sur le mouvement syndical. Donc, là, on a un mouvement socialiste unifié, avec des tendances bien marquées, hein, quand même. Et on a un mouvement syndical unifié, mais le syndicat, enfin, la CGT, donc, est très, très jalouse de son autonomie. Pour elle, l'émancipation des prolétaires doit être l'œuvre des prolétaires eux-mêmes, et se méfient des partis où il y a plus d'intellectuels, de bourgeois, etc. Enfin, ça, c'est vraiment la singularité de cette époque que je chéris entre toutes. Et donc, c'est une période très, très combative. Alors, il m'a fallu choisir des mouvements qui, d'abord, avaient été illustrés par des cartes postales, ce qui n'est pas le cas de tous les mouvements. Il y a eu des mouvements extrêmement intéressants qui ont donné lieu à trop peu de cartes. Ou alors, les cartes ont peut-être disparu, parce qu'elles n'ont pas toutes était conservé de la même manière. Moi, j'aimais beaucoup le mouvement des résignés des Landes. J'avais envie de mettre un peu plus de ruraux. C'est un mouvement extrêmement intéressant, mais j'ai trouvé que 4 cartes, je pouvais pas le mettre. Après, mon souci, ce qui m'a guidée, ça a été de représenter le plus de territoires possibles sur l'ensemble de l'Hexagone. Hexagone plus Corse, mais il n'y avait rien. Enfin, je n'ai pas trouvé trace de grandes grèves en Corse. J'aurais pu aussi faire des grèves en Martinique. Il y a eu des grèves dans les plantations, mais il n'y avait pas de carte. Bon.
Merci à Hans Tenner, auteur du Temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque, paru aux éditions L'Échappée, pour sa libre participation à cette émission, réalisée en compagnie de Christophe Patillon, Yann Perry et Xavier Nerrière, avec la complicité du Centre d'Histoire du Travail.